André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement théâtral et musical intitulé Le Monde de Gigi qui aura lieu le samedi 4 juillet à 20h à la chapelle des Carmélites de Toulouse. C'est au centre-ville. Et pour parler de ce spectacle, nous sommes en compagnie de William Maurer, professeur agrégé en lettres modernes, professeur de musique, compositeur, écrivain, claveciniste, comédien, correcteur, etc., etc. Et, bien sûr, fondateur de la compagnie William Maurer. Bonjour William.
Bonjour André.
Également Andrei Balea, comédien de la compagnie qui interprète le rôle de Mao, un des personnages principaux de la pièce. Bonjour Andrei.
Bonjour André.
Alors tout d'abord, nous allons vous présenter un peu plus longuement William pour dire que donc vous êtes origine de La Réunion.
Hein, c'est exact,
origine
oui.
De La Réunion.
Je suis né en 1992 et je suis arrivé en 2011.
En 2011. Entre 2013 et 2023, prix d'analyse et des cours de basse continue de chant grégorien, d'ensemble vocal, de direction de chœur. Vous avez donc une formation musicale d'écriture, de contrepoint, de composition instrumentale, d'histoire des arts et d'orchestration. Vous êtes agrégé de lettres modernes, puis de musique en 1921. Voilà, vous avez créé votre première œuvre originale à l'âge de 26 ans, lors d'un concert de chant grégorien, voilà, inspiré de musique ancienne. Vous avez obtenu un diplôme d'études musicales en 2023 au Pôle des Arts Baroques. Et vous êtes admis au cours Florent à l'issue d'un stage de théâtre et de cinéma. Et enfin, en 2023, vous fondez l'ensemble William Maurer, qui est à la fois un ensemble musical et une compagnie théâtrale.
C'est exact, oui.
C'est bien ça. Et donc, dites-nous un peu en quoi consiste justement l'ensemble William Maurer.
Alors, l'ensemble William Maurer, donc en fait, c'est une association que j'ai fondée avec Romain Dansac en octobre 2023. Au départ, je voulais donc faire deux structures, donc un ensemble proprement musical et une compagnie théâtrale. Et puis, je me suis dit qu'il serait peut-être plus judicieux et plus pertinent de ne faire qu'une seule structure hein, qui réunirait donc les deux pôles qui m'intéressent, donc le pôle on va dire, littéraire et théâtral, et le pôle musical, pour pouvoir donc faire ce qu'on a appelé des spectacles mêlés ou des spectacles hybrides, ou interdisciplinaires, enfin, on peut utiliser la terminologie que l'on veut. Donc, qui mêlerait donc à la fois théâtre, musique, parfois la danse éventuellement. Donc au départ, donc, dans cet ensemble, on ne faisait que des concerts, entre guillemets, que des concerts parce que ça demande quand même une certaine organisation. Donc des concerts dont le mot d'ordre était l'exigence, l'excellence et en même temps l'expérimentation. Donc contrairement aux différentes associations ou aux différents ensembles musicaux que l'on peut voir et qui sont plutôt spécialisés, mon but c'était plutôt d'offrir ce que moi j'appelle des voyages musicaux, hein, des voyages chronologiques. Donc, on a fait des concerts où l'on jouait des pièces de Bach, de Rameau, donc du baroque, français, allemand, ancien, et ensuite des pièces romantiques, des pièces contemporaines, en jouant du Messiaen. Le mot d'ordre, c'était à la fois donc l'expérimentation et aussi une forme de liberté dans le choix des œuvres programmes afin de faire, moi, ce que j'appelle des voyages, de proposer au public des voyages musicaux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ces ensembles, enfin dans cet ensemble, lors des concerts, je faisais jouer aussi une part de mes propres compositions. Puisque mes compositions ont la particularité justement d'être un peu hybrides, c'est-à-dire de jouer de cette liberté entre la tradition et la modernité dans l'écriture musicale occidentale. Et ensuite, j'ai voulu développer davantage le pôle théâtral.
D'accord. Donc au départ, c'était musical,
oui.
Essentiellement.
Oui.
Voilà, et vous en êtes venu au théâtre ensuite. Et là, donc, c'est votre première représentation. Vous n'avez pas eu d'autres avant, donc vous n'avez pas un répertoire avec cet ensemble.
Pas encore, non. Il y a eu quelques spectacles où on mêlait déjà du théâtre avec de la musique, avec aussi ce souci donc, de l'expérimentation. Donc, je pense à ce spectacle qui s'appelait Zone de Turbulence, où j'étais au clavecin et où je travaillais avec une comédienne qui avait mis en chanson quelques-uns des textes que j'avais écrits dans mon premier livre. Et on avait mis ces chansons en musique. Ça, c'est le premier spectacle musico-théâtral de l'ensemble. Mais on a pas encore fait de spectacle avec une pièce à part entière, comme celui qu'on va proposer.
D'accord. C'est une grande première, alors.
Effectivement, oui.
Et donc, dans cette association, vous êtes, il y a plusieurs personnes, dont le président.
Oui.
Qui se nomme, on peut citer son nom.
Bien sûr.
Romain Dansac.
Oui.
Voilà. Qui a été choriste et donc qui a pris la présidence en 2023. Et il coordonne le pôle musical et le pôle théâtral.
Oui.
Voilà. Et vous-même, il y a d'autres personnes dans cette association ?
Alors oui, donc il y a moi qui suis le directeur artistique de l'ensemble, Katharina Mangan qui interprète, enfin qui est chanteuse lyrique soliste et qui interprète la plupart de mes compositions pour soprano soliste et qui tient également le rôle principal, c'est elle qui jouera Gigi, voilà, donc pour le spectacle. Et il y a aussi David, donc, qui est notre chef de chœur et chef d'orchestre, et qui donc, dirigera les musiciens pour le spectacle également.
D'accord. Voilà. On parle un peu plus en détail. On va interroger Henri maintenant. Mm-hmm. Alors, vous êtes membre de la troupe.
Exactement.
Mm-hmm. Et comédien ?
Comédien, on va dire une reconversion professionnelle vers la comédie, du coup.
Mm-hmm.
Depuis un an, ça fait... Je suis comédien amateur depuis 2019.
Et alors, vous avez joué dans d'autres troupes ?
Oui, je ne pourrais pas les citer là. J'ai joué dans plusieurs pièces différentes, que ce soit du Molière ou des choses, des pièces un peu plus modernes sans être contemporaines, notamment dans Marie-Octobre, où j'interprétais un ancien résistant qui s'avère être un traître.
Ah, finalement, le rôle du Reggiani dans le film.
Le rôle de Roger, exactement, dans le film.
Oui, c'est ça. Et vous avez d'autres pièces citer, non ?
Donc, j'avais aussi, comment elle s'appelait ? Ah oui, Les Femmes Savantes de Molière, où j'interprétais Vadius. Et ensuite, j'ai eu des petites scénettes, notamment Kalian Kef, il me semble, dans Les Justes.
Mm-hmm.
C'était ce qui était assez dur, en fait. Même si c'était qu'une petite scénette, l'interprétation était assez dure de se mettre dans la peau d'un terroriste exalté dans son œuvre, de ce passage à l'acte. C'était un grand changement dans le caractère que j'ai.
Mm-hmm. Et vous êtes depuis quand dans l'ensemble ?
Depuis un an.
Environ, oui.
J'avais vu les prémices il y a 2 ans, mais oui. J'avais 2-3 engagements à cette époque, et donc j'ai rejoint, en fait, William m'a proposé le rôle de Mao. Je ne comprenais pas pourquoi, et ensuite, au fur et à mesure que j'ai lu le texte, je comprends de plus en plus pourquoi.
Mm-hmm. Vous pouvez nous en dire un mot, alors ?
Oui, en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette pièce, c'est que les personnages sont très différents, et pas seulement dans leur personnalité, mais aussi dans leur vocabulaire, dans leur parcours de vie. Je peux voir des personnages qui collent bien aussi aux personnes qui les interprètent, beaucoup plus philosophe, d'autres beaucoup plus terre-à-terre. Et le personnage de Mao, qui est un chat de gouttière, a quelques traits de personnalité qui me ressemblent.
Mm-hmm.
En bien comme en mal.
Exactement.
Donc on peut préciser tout de suite, c'est parti donc d'une de vos œuvres.
Oui.
Et donc il s'agit d'animaux. Hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors ça part en fait d'un conte qui s'appelle Le Monde de Gigi, et en fait c'est l'histoire d'un chat, donc ça se passe à Paris, c'est l'histoire d'un chat de gouttière, donc Mao, qui rencontre une pigeonne anglaise qui s'appelle Meredith. Et on s'attend, et même eux s'attendent à suivre leur instinct naturel, c'est-à-dire à ce que le chat se précipite sur la pigeonne pour la manger, voilà, comme on le voit dans la nature. Sauf que, pile au moment où on s'attend à ce qu'il y ait cet événement, le chat se dit « Ah mince, j'ai pas envie de la manger ». Et la pigeonne le regarde et « Ah ben tiens, j'ai pas envie de m'enfuir ». Il se regarde, voilà, il se toise un peu, il se demande « Mince, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a un bug. Clairement, il y a un bug, quelque chose ne fonctionne plus.
Mm-hmm.
Et donc, il s'ensuit ensuite une discussion un peu loufoque, un peu fantasque, où il se demande ce qui se passe. Sauf qu'il y a donc une moinelle très cancanière qui les a espionnés, qui a été choquée, et qui s'est empressée d'aller tout révéler à son mari, à une hirondelle qu'elle croit être sa meilleure amie, mais qui est hypocrite comme pas possible et qui va répandre la rumeur partout. Et donc, la rumeur arrive aux oreilles donc, du roi des pigeons, Pichon, et aux oreilles du roi des chats, Ramina Grobis, donc, que j'interpréterai.
Mm-hmm. Et, un empereur, voyons.
Un empereur, l'empereur, pardon, l'empereur des chats. Et donc, il décide donc, de faire éruption et d'arrêter donc, la pigeonne Meredith et le chat Mao, et de les condamner pour trouble à l'ordre naturel.
Voilà, ah,
c'est
oui.
Quelque chose qui est contre nature.
Ben, oui.
Sauf qu'entre-temps, ils ont rencontré une petite fille, Gigi. Ils finissent par s'entendre, et Gigi arrive à leur obtenir un procès. Voilà, elle dit à Pichon et à Ramina Grobis, avant de les condamner, qu'ils aient droit au moins à un procès équitable. Et c'est elle qui sera l'avocate de la défense. Donc, le centre de la pièce, c'est ce procès et cet enjeu. Donc l'avocat de la défense, l'avocat de l'accusation, Pichon, un juge, donc des témoignages qui se succèdent. Et à la fin de le procès, on a les délibérations avec plein d'animaux aussi. Et ce qui rajoute en fait une autre dimension à la pièce, c'est qu'il y a une partie qui se passe au ciel. Au ciel, il y a la directrice des affaires célestes qui voit ça et qui dit « mais c'est insupportable, encore un bug, il n'y a rien qui fonctionne ». Et elle va envoyer donc un ange qui s'appelle Hermès pour témoigner pour l'accusation et dire « non, non, ce qu'ils font est très mal, ce n'est pas bien du tout, il faut les condamner pour rétablir donc, la loi de prédation qui est l'essence divine voilà, », en tout cas dans l'histoire. Sauf que, eh bien, il y a des rebondissements. Parfois, on a l'impression que c'est l'accusation qui va gagner. Parfois, la défense arrive à retourner la situation. Et donc, pour connaître le dénouement, j'invite tout le monde à venir nous voir pour voir savoir comment cette histoire va se terminer.
Tout à fait. Alors, c'est un grand spectacle, on peut dire, hein, puisque ça associe d'abord le théâtre et la musique.
Et la danse.
Et la danse. Donc, trois arts qui se retrouvent dans un même spectacle avec de nombreux musiciens.
Environ 14 musiciens, je crois.
14 musiciens avec des instruments enfin, très variés également. Il y a de la flûte, du hautbois et basson, du basson, des violons, des altos, du violoncelle, la contrebasse, des pianos et clavecin.
Oui, c'est moi qui serai au clavecin. Et j'ai appris récemment que nous aurions aussi du cor anglais. Voilà.
Ah oui. Très bien, donc une douzaine de musiciens environ,
oui. Ça.
Et 32 personnages, c'est ce qu'on a compté. 35 personnages.
Effectivement, oui, j'ai oublié de le mentionner, donc Katharina Morgan qui joue le rôle de Gigi, d'un mesure où elle est aussi chanteuse lyrique, elle nous partagera sa magnifique voix lors de quelques chants bien choisis.
Donc le monde de Gigi avec ses nombreux animaux.
Oui.
Des animaux, il y a de nombreux animaux, mais il y a aussi des personnes humaines, il y a des anges.
Oui, voilà, il y a un aspect, on va dire, un peu totalisant, si je peux utiliser cette terminologie. On a des animaux, on a une enfant, on a des adultes, on a des anges, on a des plantes. Il y a une rose, et oui, j'ai failli l'oublier, on a une rose.
On a failli avoir un roseau, mais finalement...
Oui, on a failli avoir un roseau, à un moment donné, on est déjà à 35 personnages, il fallait élaguer. Mais
une rose comme dans Le Petit Prince.
Oui, c'est ça.
Saint-Exupéry.
Donc ça fait qu'effectivement, il y a une représentation qui se rapproche de l'univers du conte. Et c'est vrai que le défi de cette pièce, outre donc, sa longueur, donc c'est une pièce qui dure 3 heures, le nombre de personnages, c'est une pièce qui est écrite en alexandrin. Voilà, en alexandrin, même si ce sont des alexandrins modernes.
C'est original.
Et accessible, voilà. Donc là... Le grand défi de cette pièce, qui en comporte beaucoup en réalité, c'est d'arriver à porter un théâtre qu'on ne fait quasiment plus aujourd'hui, en tout cas dans les recherches que j'ai faites, moi je n'en ai pas trouvé, porter un théâtre en verre. Parce que le théâtre en verre, même au temps d'Edmond Rostand, donc dans les années 1900-1910, le théâtre en verre était anachronique. Il était considéré comme désuet, voilà, on n'en faisait quasiment plus. Et j'ai eu l'idée, donc, l'intuition pendant cet été, qu'une version en vers serait bien meilleure que la version qui était déjà écrite et qui était en prose, et qu'ils avaient déjà eu. Je leur avais déjà distribué la version en prose, et finalement, ce n'est pas du tout la version qu'on va faire. Donc, je leur ai présenté les premiers essais de cette réécriture, cette recréation en vers. Et c'est vrai qu'à la lecture du texte en vers, on n'arrive pas à s'imaginer ce que ça peut donner. Voilà, donc lorsque je leur ai lu quelques passages en vers, ils se sont dit « Ah oui, effectivement, c'est quand même mieux que la version en prose. » Et donc, c'est cette version qu'on a gardée.
Certains ont voté contre, mais c'est le comportement du chat.
Certains ont voté contre.
Finalement, j'ai été séduit. Finalement, je trouve que c'était une très bonne chose.
C'est quand même bien de le préciser au final. Oui, donc c'est cette version-là qu'on va faire, en espérant de remettre au goût du jour le théâtre en alexandrin.
Oui, et puis ça donne une dimension poétique, les alexandrins, qui va tout à fait avec le théâtre.
Et ça donne des moments très beaux, en fait. Ça, certains moments est beaucoup plus poétique dans la version en alexandrin qu'en version en prose. Et dans les moments où c'est un peu plus vivant, un peu plus moderne, on ne ressent pas vraiment la lourdeur de l'alexandrin. C'est vraiment un très bon mélange entre les deux.
Oui, c'était ce que je voulais à tout prix éviter, c'est-à-dire de retrouver, que l'alexandrin amène à un rythme monotone, un peu mécanique, etc. Donc, effectivement, le fait d'avoir lu des pièces comme celle d'Edmond Rostand, ça m'a donné beaucoup d'idées, en fait, pour, dans l'écriture, apporter de la variété.
Oui, voilà, tout à fait. Le texte, on disait tout à l'heure, le texte d'Edmond Rostand sur Cyrano de Bergerac est magnifique.
Oui.
Et donc, c'est tout à fait original, ça sort vraiment des tirades, des classiques comme Corneille, etc.
Puis le grand défi, ouais, c'était justement de pouvoir concilier cet aspect, on va dire, patrimonial de l'Alexandrin, mmh, avec ses grands noms que sont Corneille, Molière, Racine, Rostand, avec notre époque. Ce que j'espère avoir réussi à éviter, c'est d'avoir un plagiat ou un pastiche du style de la tragédie du XVIIe siècle, etc. Mmh. Lorsque je le fais, c'est vraiment parce que la situation s'y prête, que c'est pertinent avec le statut, le caractère du personnage. Mmh. Mais justement, l'Alexandrin n'interdit pas des références extrêmement concrètes et modernes pour un public contemporain. On parle de clés USB, de smartphones, de tablettes. Ouais. Je voulais quand même, disons que le pari, c'était de prendre une forme ancienne, mmh, et de pouvoir la remettre au goût du jour sans forcément renier toute la tradition qu'il y a derrière. Mmh. Voilà, mmh, il y a, mmh, des passages où on sent Molière, où on sent Racine, oui, je l'assume, ça ne me dérange, mmh, pas, mais je tenais quand même à ce qu'il y ait un ancrage dans la modernité et que pour que un public contemporain s'y reconnaisse. Mmh. Voilà.
Alors on va parler un peu des personnages. Donc vous interprétez Mao.
Exactement.
C'est un chat. Comment est-ce que vous avez abordé ce personnage ?
Un simple chat qui en avait marre de la vie de famille et qui s'enfuyait tout simplement, qui, ouais, voulait vaguer à ses occupations. Un chat un peu gouttière finalement, pour se mettre à la chasse, et qui est assez indépendant et... En fait, un chat, tout simplement. L'image qu'on se fait du chat. Il, mm-hmm, n'y a pas vraiment à rechercher là-dessus. Les inspirations que j'ai faites, c'est regarder les chats qui se baladaient dans la rue. C'est vraiment un personnage simple, Mao, finalement. Mm-hmm. Je le trouve simple. Tout est naturel. Il n'y a pas vraiment de prétention derrière. Mm-hmm. Contrairement à certains...
Oui, c'est-à-dire que Mao, je l'ai vraiment vu comme un personnage qui a une grande authenticité, mmh, à la fois dans son style, dans ses réactions, et qui a un langage simple, pas dans le sens péjoratif, pas un langage, mmh, pauvre, mais un langage qui ne prend pas 10 000 détours et qui va droit à l'essentiel.
Il est direct.
Voilà, mmh, ce qui n'est pas le cas de tous les personnages. Voilà, il y a des personnages qui ont un langage extrêmement soutenu, avec plein de circonvolutions, d'inversions syntaxiques, comme on trouve dans le théâtre classique. Mao, c'est concret. Et Andrei réussit plutôt bien.
Et donc, on parlait tout à l'heure des costumes. Vous avez beaucoup travaillé sur les costumes pour justement tous ces rôles d'animaux qui sont nombreux.
Alors, disons que ce que je voulais éviter, c'est que ce sont les masques. Je voulais, déjà lorsque j'ai écrit le roman, mais encore plus lorsque j'ai écrit donc la version versifiée, j'imaginais vraiment des animaux avec un costume à part entière, et pour que l'on voit vraiment des animaux avec leurs couleurs. Donc, si certains animaux n'ont pas de bras ou de jambes, d'avoir des costumes qui puissent les cacher ou en faire autre chose, par exemple. Mmh. Voilà, et qu'au niveau, par exemple, des couleurs, les couleurs soient cohérentes et reconnaissables. Bon, mmh, typiquement, la colombe, il faut qu'elle soit blanche. Le cochon, il faut qu'il soit rose, oui, même si effectivement, ça participe d'une vision caricaturale, mais, mmh, mais ça participe un peu, certains animaux, notamment dans les délibérations, il y a une vision satirique et caricaturale assumée. Mmh. Que le cochon soit rose et que la rose soit, on va dire, verte et rouge, par exemple. Mmh. Voilà, donc ce sont des choix très stricts, d'une certaine façon, dans les couleurs, parce que je voulais qu'il y ait quand même, d'une part, cette facilité pour le public de reconnaître l'animal, mmh, même si cela nécessite forcément d'avoir des costumes avec des traits caricaturaux et grossiers, parfois, lorsque le personnage le demande. Ça c'est un premier point. Et donc je voulais aussi que sur scène, il y ait quand même une explosion de couleurs. Mm-hmm. Parce que le nombre et la diversité des animaux le permettent. Parce, mm-hmm, qu'on a une poule, on a un canard, on a une sardine, un poulpe, un panda, une rose, un ver, des papillons, mm-hmm, une araignée, une mouche. Voilà. Donc tout cela fait que ça permet... en fait, d'avoir dans les costumes une explosion de couleurs, mmh, et à la fois d'avoir des animaux facilement reconnaissables.
Mmh. Alors, avec Mao, il y a aussi le pigeon ou la pigeonne.
Oui.
Meredith.
Hein? Meredith, donc, est un des rôles principaux aussi.
Oui, bien sûr. Meredith, qui est très bien jouée par notre comédienne, Andrea Arcangeli. Donc, Meredith, c'est une pigeonne anglaise. Bon, elle vole, donc là, elle se retrouve à Paris. Mmh. Elle ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Elle est drôle, touchante. Par moments pas très futé, ce qui a le don d'énerver Mao au plus haut point. Et il y a quand même une complicité qui se crée entre deux personnages, en fait, qui sont face à une même situation, à un même problème, et qui sont quand même très différents. Meredith, je dirais qu'elle est touchante par sa naïveté et son authenticité. Mmh. Voilà, et en même temps, il y a ce côté bon, un peu caricatural, un peu british, my darling, etc. Bon. Et donc, forcément, il y a un contraste entre ces deux personnages qui ont finalement la même interrogation. Et tout au long de la pièce, la relation va être amenée à évoluer.
Et à la fin aussi, elle a un côté qui veut diriger un petit peu sans se remarquer. Et le chat se laisse un petit peu diriger par la pigeonne, ce qui
Oui, c'est vrai que
relève.
parfois les rapports de
Oui.
force se modifient. Et puis, la difficulté, enfin, l'intérêt et en même temps la difficulté pour le rôle et pour le personnage, c'est que c'est un caractère qui change très vite d'énergie, de caractère, de sentiment. Donc, tout à coup, elle pleure, puis elle rit aux éclats, puis elle est effrayée. Voilà. Donc, il se passe quand même beaucoup de choses. Et donc, c'est une richesse, il y a beaucoup de ruptures dans ce personnage. Et c'était aussi c'est un défi, on va dire, pour jouer ce rôle.
Donc, c'est vous qui avez assumé la mise en scène?
En partie, oui.
Non.
J'ai eu, et j'ai toujours, en fait, l'aide précieuse d'Ondine Nimal, qui m'aide donc pour la mise en scène, qui est une comédienne professionnelle qui a fait ses études au conservatoire de théâtre. Parce que même si j'ai une connaissance théâtrale, on va dire assez riche, par la lecture des textes théâtraux, tout simplement, je n'ai pas de formation,
Le metteur en scène.
et même de comédien à proprement parler. Et donc, moi, je tenais, donc je suis lucide sur ce que j'ai fait, sur ce que je n'ai pas fait. Et je tenais quand même à ce que le projet soit vu par quelqu'un donc qui a fait, on va dire, les études légitimes, appropriées, et qui puisse avoir un regard professionnel sur la question. Donc c'est une aide précieuse, nécessaire, et sur le plan humain, c'est vraiment un régal de travailler avec elle. Le travail se fait à deux.
Et c'est aussi un regard extérieur, ce qui est très important parce qu'on peut facilement se perdre dans son propre texte.
Oui, c'est aussi une nécessité dans la mesure où, comme je joue moi-même dans la
Mais
pièce
oui.
plusieurs personnages, évidemment, lorsque je joue, je ne peux pas avoir de regard extérieur. Et c'est à ce moment-là que sa présence est nécessaire parce que je peux avoir des retours sur moi en tant que comédien, sur mon propre jeu. Je n'ai pas un ego surdimensionné, je n'ai pas l'ambition de dire que je peux tout faire moi-même tout le temps
Oui,
et me
bien
regarder.
sûr.
Donc, bah, dans ces moments-là, donc j'ai besoin d'un regard extérieur.
Oui, puis c'est pas facile, c'est un gros chantier, si on peut dire, dans la mesure où il y a de nombreux comédiens. On a dit 32 personnages,
Oui.
c'est vraiment très important.
Et en plus, la réécriture de la pièce en
En
alexandrin, enfin,
Alexandra.
au début de l'année, plus le travail de la musique, plus le travail des costumes, toute cette direction.
Oui, c'est vrai que c'est un gros chantier. Après, le nombre de personnages, alors, et pourtant, j'en ai enlevé les deux tiers. Par
Ouais.
rapport à la version romanesque, j'en ai enlevé les
D'accord.
deux
Ah
tiers.
bon.
Dans le jury, donc dans le roman, lorsqu'il y a les délibérations, il y a 32 animaux. Voilà. Que j'ai réussi à réduire à 14, ce qui n'était pas une mince affaire. De toute façon, à partir du moment où il y a un procès, on a deux accusés, deux avocats, le juge, les témoins. Donc forcément, la structure même du procès, l'enjeu de la pièce nécessite un certain nombre de personnages. Et ce nombre est forcément dédoublé à partir du moment où on a le jury. Le jury étant composé de 14 animaux, forcément on a déjà la moitié de la distribution, la moitié des personnages. Donc cela, ajouté aux quelques personnages qui se trouvent dans le ciel, donc on se retrouve avec un nombre de personnages qui est conséquent.
Oui, parce que vous l'avez précisé, il n'y a pas que des animaux, hein.
Oui, c'est ça.
Il y a d'autres personnages.
Voilà, il y a d'autres personnages, il y a d'autres entités. Disons que là où je pense que le nombre de personnages n'aurait pas pu être réduit, c'est que tous les personnages sont nécessaires. Voilà, on enlève un personnage, voilà, la pièce ne tient pas.
Oui, tous les personnages sont importants.
Voilà.
Très bien. Alors, ça se passe le samedi 4 juillet à 20h à la chapelle des Carmélites, rue du Périgord, à Toulouse,
Oui.
métro Capitole.
Oui.
C'est ça. Donc, oui, ça commence à 20h, 3 heures de spectacle.
Avec entracte.
Avec entracte.
Oui, quand même.
Mais oui,
Oui,
nécessaire.
voilà. Un entracte de 20 minutes avec une buvette pour le public, pour ceux et celles qui auront envie de se sustenter et de se reposer un peu avant la reprise. Voilà, donc un entracte entre l'acte 3 et l'acte 4. Et au début de l'acte 4, il y aura la fameuse
Délibération.
scène des délibérations. On aura 14 personnages sur scène et chaque animal sera rapidement introduit par un thème musical voilà, qui sera joué dans la chapelle.
Les musiciens sont sur scène
Alors,
ou
non, ils ne seront pas sur scène, ils seront juste devant.
juste dedans,
Voilà.
comme dans un opéra.
Oui, voilà.
C'est un très beau décor, la chapelle des Carmélites.
Alors oui, c'est un merveilleux décor. Ouais. Je m'estime très chanceux de pouvoir jouer dans cette salle pour ma première pièce. Mm-hmm. Voilà, il faut quand même le souligner. Et donc là où je trouve aussi que c'est un endroit pertinent pour la pièce, mm-hmm. outre la beauté du décor, c'est que dans la mesure où il y a une partie en fait qui se déroule au ciel, mm-hmm. donc avec les décors peints, cela fait un décor qu'on n'a pas besoin de poser. Mm-hmm. Le décor mm-hmm. est déjà là. Je trouve que l'univers des Carmélites, ça rajoute un peu au merveilleux qu'il y a dans l'histoire et dans la pièce elle-même. Mmh. Voilà.
Très bien.
C'est un monde particulier, voilà. C'est le monde de Gigi. Ouais, et je pense que le monde des Carmélites s'insère plutôt bien dans le monde de Gigi, en fait. Voilà.
Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ? On arrive à la fin de notre émission.
Eh bien, venez. Oui. Voilà, je ne sais pas.
Je pense qu'on peut dire que c'est une pièce que même les enfants peuvent aimer, comme les adultes. En mmh. fait, cet aspect des animaux qui participent entre eux. Il y a des thèmes qui sont quand même assez compliqués à aborder, mais même ces thèmes compliqués à aborder qui peuvent être facilement incompréhensibles pour les adultes, les enfants restent...
Oui, en fait c'est un spectacle pour déjà en fait qui intègre parmi les comédiens et les musiciens, si je peux utiliser ça va vraiment de 7 à 77 ans, c'est-à-dire oui. que les plus jeunes comédiens ils ont 19-20 ans, et puis les moins jeunes comédiens ils sont entre 60 et 70 ans, parce que là, l'histoire en fait le demande. Et aussi, donc, c'est un spectacle qui intègre une pluralité des âges, avec effectivement différents niveaux de lecture. C'est sûr que je pense que les parents n'auront pas forcément la même lecture que les enfants.
Très certainement.
Mais c'est un spectacle pour petits et grands. Il y a différents types d'humour, il y a des moments un peu plus doux, il y a des moments où le langage est un peu plus relevé, où le langage est beaucoup plus terre-à-terre. Donc, je pense quand même qu'on peut y trouver facilement son compte. Voilà, en tout cas, je l'ai un peu vu comme ça. Ceux qui sont voilà, plutôt sensibles à la belle langue, à l'émerveillement poétique. Ceux qui sont un peu plus franchouillards et qui veulent rigoler, haha, l'araignée, le canard, ça aussi. Ceux qui ont un tempérament un peu plus philosophe et qui sont là, ah oui, ce raisonnement pour tel témoignage. Donc, le tour en alexandrin.
Oui.
Donc, j'ai envie de dire, c'est original, c'est extrêmement bien écrit. En toute objectivité.
C'est vous qui l'avez écrit, je crois.
Oui, c'est ça. Et donc, j'ai envie de dire, venez.
Oui, certaines répliques, on ne les volera pas, je garde certaines répliques, ça je veux les prononcer.
Merci William, merci Andréi.
Merci André.
Allez voir le monde de Gigi.
Merci André.
3 heures de spectacle, un conte philosophique, théâtral et musical en 5 actes et en alexandrin, nous l'avons dit. Voilà, c'est le samedi 4 juillet à 20h à la chapelle des Carmélites, 1 rue du Périgord, 31 000, Toulouse, le métro Capitole.
Vous pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante, donc ensemblemoraire, tout attaché, @outlook.com. Et vous pouvez réserver sur le site Eloasso, donc le monde, Ensemble William Moraire, le monde de Gigi, Eloasso, vous allez tomber sur cette page.
Merci beaucoup. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. L'attitude d'un auteur quand il a écrit pour le théâtre doit être affective avant d'être intellectuel, car tout le théâtre s'adresse à l'émotion avant tout. Elle est de Charlie Chaplin. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de la radio altitudefm.com et bien d'autres également sur le site de l'Union Régionale FNCTA, fncta-midipi.fr. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas, 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité, joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.